concerné des questions, des remarques, des approbations. Ça, c'est une manière spéciale quand même. Dire que c'était une approche très expérimentale des choses. Et je ne sais pas si ça convient à
un rituel. Ah oui, un peu, oui. Non, ça m'a fait penser à des choses qu'il y a aussi dans l'exposition à la Maison Pop. Mais peut-être pour commencer, j'ai une question un petit peu plus d'ordre pratique. C'est pas forcément pratique, mais c'est la relation entre le son et l'image. Est-ce que, à quel moment le son intervient? Est-ce que c'est quelque chose qui est rajouté après? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent dans la performance, dans le rituel?
Eh bien, quand je filme, en fait, j'en mets de la musique, mais c'est pas forcément la musique que j'utilise après. La musique que je mets quand on fait nos performances, c'est pour donner un rythme à la scène. Je filme, et puis ensuite, quand je fais le montage et tout, j'y pense après coup, et j'entends la musique, et je dis, tiens, ça pourrait correspondre. Et le fait, effectivement, souvent, j'avoue que ça tombe assez juste. Enfin, bon, moi j'ai l'impression, hein, peut-être que les spectateurs ne le sentent pas comme ça, mais voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, je vous dis.
C'est la même technique entre les trois films pour le matériel qui est utilisé pour filmer?
Oui.
Je me demandais si le matériel qui est utilisé pour filmer était le même entre les trois films. Parce qu'en termes de couleur, en fait, sur le dernier, quand c'est si dense, en fait, vraiment la couleur de l'or, je ne sais pas si c'était doré, c'est ça? C'était le portail?
C'est du noir et blanc, mais c'était mais... porté, c'est, oui, c'est du doré, c'était oui. Quand même du métal.
Et en fait, ça ressort énormément, donc je voulais savoir si le matériel utilisé était le même pour les trois films.
Oui, de fait, oui. En fait, pour le Halloween Queen 1, il y avait deux caméras, ça dépendait des plans, en fait. Donc sur certaines scènes j'avais une caméra et sur d'autres scènes j'avais une autre caméra, mais bon, c'est la même pellicule.
D'accord, il y a des filtres non pour...
Non, même pas. C'était un travail d'éclairage avec mes amis. Donc,
En fait, quand vous parlez de performance, il s'agit d'un spectacle dont vous avez fait la captation ou c'est vraiment un film en tant que tel?
C'est des performances faites spécialement pour le film.
Donc c'est pas une captation de spectacle?
Non. Rien n'est captation de spectacle, c'est vraiment, par exemple, les deux derniers portraits sont vraiment des choses qu'ils ont fait spécialement pour le film, pour moi.
Quand tu parles de montage...
Il y a quelqu'un qui me dit.
Quand tu parles de montage, alors...
Allez-y.
Alors, quand tu parles de montage, c'est comme du montage numérique, après, c'est...
Non. Là, c'est vraiment la pellicule. J'ai la pellicule en main. J'ai des images. C'est pour ça que j'aime tant le Super 8, parce que vous avez vu que la matière est vivante. Hein. Ça respire, ça meurt, ça fait des flickers, ça flash. Donc, avec les erreurs de développement, ça donne des choses absolument splendides, comme les voilures que vous avez vues dans les deux derniers portraits. Là, c'est des erreurs de développement, mais je les ai gardées, parce que justement, ça prouve que la pellicule est vivante, et que voilà, ça donne ce grain, cette respiration à l'image que je trouve inimitable, comme que le numérique ne peut jamais donner, ne pourra jamais donner, en fait. Oui, donc...
Oui, en fait, j'avais deux questions. Bah, justement, là, on parle du Super 8, mais justement, enfin, c'est pas vraiment des questions, en fait, c'est plutôt des choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai vu le film. La première chose, c'est justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le raffinement et la barbarie? Parce que, en fait, dans les deux films, pour ce qui est des rituels, il y a vraiment entre l'extrême délicatesse des gestes, bah, justement, quand c'est des hommes qui font des gestes dits un peu plus. Voilà, donc là on s'approcherait plutôt du raffinement, alors au contraire avec quelque chose de il y a des meurtres ou au contraire on s'étale des choses dessus, donc finalement comme quoi ce serait assez semblables, le raffinement et la barbarie, ce serait exactement la même chose, mais on va prendre les faits.
À mon avis, ça va ensemble. Plus on peut être raffiné, plus on peut être cruel, plus on peut être barbare. Mais... En fait, oui, barbarie, c'est peut-être pas vraiment le mot. Disons qu'il y a une forme de cruauté extrême qui peut être apparentée à du très grand raffinement. Moi, je trouve que, par exemple, chez Sade, il y a ce genre de choses, des choses extrêmement raffinées, comme ça, parce qu'effectivement, on pousse très loin la perception, la sensation. Donc, la beauté des choses exalte d'autant plus les sens. Et puis, la cruauté, justement, fait ressortir quelque chose d'extrême dans l'être humain. Donc, voilà, c'est très politiquement incorrect, mais je pense qu'il y a de ça quand même dans, justement... notre humanité. Je suis quelqu'un d'extrêmement doux, mais en même temps, il y a des voix. J'adore les films d'horreur, par exemple. J'adore avoir très peur, avoir des sensations très fortes. Quand je mange, j'aime bien des piments très forts, que ça me chauffe le corps. Et voilà. Et en même temps, effectivement, il y a une sorte de beauté que je recherche en tout cas dans l'être humain, dans l'art, dans la musique. Voilà, c'est-à-dire que pour se sentir vivre d'une façon très intense, je pense qu'il y a quelque part poussé les choses à fond.
C'est pas vraiment une question, mais c'est parce que je me demandais pourquoi le super 8, parce que justement quand on parle de transgenre, de rituel, justement par rapport au mélange, et en fait je trouve que utiliser le super 8, je me demande, c'est pas, mais du coup je me dis il y a une seule qualité d'image, et peut-être que, enfin je sais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup justement par rapport à ce raffinement ou au rituel de mélange, pourquoi juste le super 8? Alors justement, je sais pas, j'ai pas regarder dans le programme quand est-ce qu'ont été tournés les films, mais je pense que c'est quand même tourné à l'époque du DV, et du coup justement pourquoi, alors qu'il y a des mélanges dans les personnages, entre le contemporain et je sais pas, le rétro ou le vintage, je sais pas comment dire, et du coup pourquoi juste rester à une image rétro, et je sais pas, peut-être que vous faites d'autres trucs, vous mélangez, mais du coup justement je trouve que dans le film il y a le mélange et l'image est assez unique, et je me demandais.
Parce que je travaille, c'est mon médium de prédilection, le Super 8, je travaille depuis une trentaine d'années dessus, et j'ai beaucoup de mal à passer au numérique en fait. J'ai fait des images numériques, mais je n'arrive pas à les monter. Je trouve tout simplement que le Super 8 est plus vivant. Pour moi, le Super 8, c'est la peau, c'est la pellicule. La matière argentique est une matière vivante, donc on peut imprimer, justement, c'est la matière organique, il y a de grains, de pommes de terre, il y a de l'argent dedans, donc un métal très, très raffiné, un métal précieux. Et puis, comme vous voyez bien, la matière super 8, ça respire, c'est la matière vivante, c'est la peau pour moi, pellicule, peau, voilà, c'est quelque chose de vivant. Et c'est vraiment ce que je trouve de plus apte à mon approche. Mon approche notamment des corps et des visages, que moi je trouve absolument, comment dire ça, c'est inimitable, la peau, le corps, le visage humain, pour moi c'est vraiment le summum de la beauté, donc je pense que ça doit se ressentir un petit peu là, quand je filme les gens, je les caresse amoureusement avec la caméra, et je trouve que le Super 8, et une matière vivante, pellicule, est apte à rendre ça. Je ne suis pas sûr que le numérique puisse rendre cette forme de battement, de tremblement de la chair, de la peau. Voilà. Bon. D'autres questions peut-être?
Moi, c'est juste une question. C'est plutôt sur la manière dont tu présentes les films. Tu parles du premier comme, comme une fiction référencée expressionniste, donc ça se voit évidemment. Et tu parles du diptyque comme performance et portrait. Et pour autant, moi, bon, je mais aussi par rapport aussi à une forme expérimentale, je vois pas tant de différence. Donc ma question, s'il y en avait, ce serait est-ce que il n'y a pas de la forme, enfin, est-ce que c'est pas plutôt un autoportrait là, enfin, est-ce que du coup, est-ce que c'est si différent que ça en fait? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a le premier film appartient vraiment au registre de la fiction et de la
réalité? Oui, parce que le premier film, il y a une sorte d'histoire entre guillemets, alors que les deux autres n'en ont pas. C'est juste vraiment la performance pure. Alors que dans les deux, le premier film, il y a, bon, il y a la performance que je fais, bon, la petite danse, là, de sacrifice, mais quand même, c'est intégré dans une sorte de petite histoire, quand même. Le rituel est raconté avec les étapes qu'il faut, l'invocation au miroir, la descente vers la cave, et puis la résurrection, le rituel de résurrection. Voilà, c'est une petite histoire. C'est pour ça que je disais fiction. Alors que l'autre, il n'y a pas grand d'histoire, il y a un déroulement effectivement qui est assez structuré, mais il n'y a pas grand d'histoire. C'est pour ça que ce ne sont pas des fictions, juste des portraits, alors que le premier est une fiction incluant, donc effectivement, on peut dire un autoportrait.
Pour autant, moi je me raconte des histoires aussi dans le diptyque, donc voilà, c'était juste pour me tromper.
Mais de toute façon, la lecture d'un film, la vision d'un film est très personnelle. Tout le monde, justement, heureusement d'ailleurs, chaque spectateur investit le film à sa façon et puis le voit à sa façon. Moi, je ne donne pas une vision unique, une grille de lecture unique pour mes films. Hein. Je fais les films, je le montre et puis au spectateur d'y adhérer ou pas, d'y entrer ou pas. Si vous êtes entré, je suis content. Mais sinon, bon, voilà, c'est quand même des univers très particuliers.
Et dans la performance de François et Cécilia, quelle est leur part de création à eux et votre part de création à vous? Est-ce que vous leur demandez un type de performance ou vous leur donnez quelques suggestions et ils créent eux-mêmes?
Alors, de fait, j'installe le décor. J'amène certains accessoires, quelques accessoires, je dis voilà, donc on y va. Ils se lancent. Ils ont quelque chose dans la tête, mais bon, le décor, le cadre, tout ça, c'est moi qui le fais. Quoi. Je suis cadreur en même temps, je fais l'image. Donc, voilà. Et donc ils se déploient devant la caméra. Et là, je capte ce que je sens fort et ça donne ça.
Oui, parce que j'étais assez d'accord avec ce que disait Béatrice, je trouve ça assez narratif finalement.
Oui, la narration vient comme ça par elle-même en fait, en quelque sorte. Je n'avais pas construit l'image avant, enfin, je n'avais pas construit l'histoire avant. De toute façon, le film, je ne fais jamais de scénario, ni de. A fortiori, jamais de. De storyboard, c'est très, très instinctif. Je commence mes films par quelques plans, je les fais développer. Et si je vois que les plans me plaisent, je construis l'histoire à partir de ça. C'est une sorte de work in progress. Je pense qu'on peut peut-être introduire.
Ça marche
Derek Jarman.
Oui, donc on a choisi de montrer The Angelic Conversation, un film de Derek Jarman qui date des années 80, de 1985 en particulier. C'est un film qui, à mon avis, s'apparente au travail de Sautine. Et je pense que je vais plutôt lui laisser la parole pour dire comment, mais je peux aussi spéculer un petit peu. Donc, The Angelic Conversation est un film qui... C'est une sorte de fiction abstraite, expérimentale, qui retrace l'épopée amoureuse de deux jeunes hommes sur un décor à moitié naturel, mais aussi urbain, assez brutal. Et à côté de ça, on a une musique qui est composée par Coyle et une femme, Judy Dench, une comédienne qui a beaucoup travaillé Shakespeare, qui va lire 14 sonnets de Shakespeare. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lire certains parce qu'en fait, nous n'avons pas la traduction. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, on s'est dit qu'on en lirait peut-être deux ou trois pour vous donner un peu une idée. Je pense qu'on n'a pas besoin de tous les lire. Et ces sonnets-là, hors contexte, ils sont quand même assez ouverts, ils sont assez poétiques, ils sont mais mis dans le contexte du film de Daniel Jarman, prennent une connotation homoérotique qui est une sorte de manière intéressante de relire Shakespeare. Il y a un aspect rituel aussi assez fort dans le film. Et il y a aussi cette. Peut-être que le filmer en Super 8 aide aussi cette pratique du rituel. Je peux peut-être te laisser la parole et te laisser compléter. Et parler aussi de ta relation à ce film aussi.
Oui. De fait, effectivement, je suis un très grand animateur de Derek Jarman et je suis content qu'Anna me programme avec Derek Jarman. Surtout ce film-ci qui est assez particulier. Donc, de fait, c'était un film qu'il a filmé en Super 8 et qu'il a refilmé au ralenti avec. Donc, là, la version que vous allez voir, c'est en DVD, donc numérique, bien entendu, pas la matière Super 8 même. Mais c'est une sorte de rêverie poétique, justement, sur l'amour homosexuel. C'est la. Deux garçons, lequel se déploie la musique de Coyd, extrêmement rêveuse. Et Derek Jarman lui-même disait que donc, dans ce film, il faut prendre le temps que les choses arrivent, effectivement, avec le ralenti, tout ça, il y a une sorte de rythme particulier qui s'installe. Et en même temps, donc, les textes de Shakespeare, les poèmes de Shakespeare surposent tout ça comme une sorte de commentaire intérieur. Il me semble que ce n'est pas nécessaire qu'on comprenne tout, c'est juste avoir le son de la langue, qui est très bien dit par Judith Dench, qui est une grande actrice shakespearienne et qui joue par ailleurs le rôle de M dans certains James Bond, donc la chef de service de James Bond, mais qui est quand même qui est issue du théâtre notamment élisabéthain. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de synchronisme quant à au dialogue. C'est aussi des sortes de rituels d'amour, un rituel d'amour, alors que les miens sont d'autres formes rituelles. C'est un rituel d'amour donc avec musique et poème, donc qui commente doucement, qui survole le texte, enfin le texte, je veux dire l'image, et voilà, donc c'est à vous de vous laisser aller à la rêverie ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je connais très bien l'œuvre de Derek Jarman parce que c'est un univers qui m'est très, très proche, qui me touche à cœur, notamment quand il est mort du sida en faisant le film Blue, qui est un film monochrome. De bleu plein pendant 70 minutes et qu'on ne voit rien sauf le texte et la musique de Eno et Simon Turner. Et voilà, c'est pour moi c'est une des figures tutélaires au cinéma, au même titre que Cocteau, que Kenneth Anger, que Bernard Schlotter, que Jack Smith. Et je vous laisse avec Angelic Conversation. Je vais venir juste quelques poèmes. Trois, en fait. Pour moi, charmante amie, vous ne pouvez vieillir, car tel vous étiez quand mes yeux rencontrèrent les vôtres pour la première fois, telle votre beauté m'apparaît encore. Le froid de trois hivers a arraché aux forêts la parure de trois étés. Trois beaux printemps se sont changés en jaunes automnes, dans la marche des saisons que j'ai vues. Les parfums de trois avril ont été brûlés au feu de trois juin, depuis le premier jour où je vous ai vu dans toute la fraîcheur de votre jeunesse. Et elle est toujours aussi verte. Ah, songez pourtant que la beauté, comme l'aiguille du cadran, les vit furtivement sans qu'on la voie bouger. Ainsi, votre doux éclat, que je me figure, Néa, si vite un changement sans que mes yeux l'aperçoivent, sachez donc, pour vous mettre en garde, jeune inexpérimenté, qu'avant que vous fussiez né, il était de bien des beautés des morts. Votre poème. Épuisé de fatigue, je me mets vite au lit, reposoir cher à mes membres enlacés. Mais alors commence un voyage dans ma tête qui fait travailler mon esprit, en expire le travail de mon corps. Car alors mes pensées, loin du lieu où je suis, entreprennent vers toi un pieux pèlerinage et tiennent mes paupières languissantes, toutes grandes ouvertes, fixées sur les ténèbres que les aveugles voient. Là, la vision imaginaire de mon âme présente ton ombre à ma vue sans yeux. Et ton ombre, comme un bijou pendu à la nuit spectrale, fait belle cette nuit noire et en rajeunit la vieille face. Ainsi, le jour, mon esprit, la nuit, mon âme, à cause de toi, pour moi ne trouve pas de repos. Troisième dernier poème que je vous lis. Doux amour, renouvelle ta force. Qu'il ne soit pas dit que tu t'émousses plus vite que l'appétit qui, aujourd'hui, est amorti par la nourriture, mais qui demain reprend son premier rayon. Sois ainsi, toi, amour, quand tu rassasieras aujourd'hui tes yeux affamés jusqu'à ce que la satiété les ferme, regarde demain encore et n'éteins pas l'ardeur de l'amour par un incessant refroidissement. Que ce triste intérim soit comme l'océan qui sépare les rives où deux nouveaux fiancés viennent chaque jour, en sorte qu'au moment où ils doivent se rapprocher, l'entrevue soit plus délicieuse encore. Ou comparons-le à l'hiver qui, plein d'ennui, donne à la bienvenue de l'été.